C'est quoi un discours populiste? C'est quoi précisément le populisme?
Eh bien, c'est un mot qui est très mal défini et qui s'esquive dès qu'on essaie de le placer ou de le mettre dans un carcan précis. En fait, c'est un concept fourre-tout. Une auberge espagnole d'un vocabulaire politique ou idéologique mal défini. Le plus souvent, il est utilisé comme arme de combat pour disqualifier un adversaire. Et celui qui l'utilise pour le disqualifier prétend ainsi se donner un label démocratique à bon marché.
La stratégie des populistes, c'est donc d'instrumentaliser les peurs.
Bien sûr, ils se basent essentiellement sur ces peurs pour se hisser sur le pavois du pouvoir. Quand je dis que le mot populiste est utilisé dans un but polémique, il ne faudrait pas que celui qui arrive avec un argument...
Avec une injure, en quelque sorte.
Oui, mais celui qui arrive avec un argument et avec « oui, mais ce n'est pas très, très juste cette société qui laisse sur le bas-côté de la route avec cette mondialisation ultralibérale, ce n'est pas très juste tout ça ». Si on lui dit à ce travailleur, par exemple, que c'est populiste, eh bien c'est une façon de mépriser l'argument. Autrement dit, ça me rappelle dans Molière, couvrez ce sac, je ne saurais voir.
Alors précisément, comment distinguer ceux qui sont vraiment des populistes de ceux qui ont des idées nouvelles, puisque c'est un mot aujourd'hui que l'on en prend, que l'on utilise un peu à toutes les sauces.
En fait, je dirige ici ma cible contre ceux qui, comme vous l'avez dit, instrumentalisent les peurs pour en tirer les bénéfices électoraux. Et je trouve ça extrêmement regrettable de la part d'un mandataire politique. Il faut dire qu'en Belgique, jusqu'à présent, on n'est pas encore arrivé dans ces dérives les plus extrêmes. Parce qu'en fait, de quoi est-ce que ça retourne en fait? On voit très bien que dans le cocktail qu'ils utilisent, les mandataires ou les politiques populistes, qu'est-ce qu'ils disent? En fait, il y a d'un côté l'antiparlementarisme, l'anti-élitisme, l'anti-système, l'anti-establishment. Et d'un autre côté, il privilégie ses peurs, il souffle dessus avec ce qu'on peut appeler les trois I, islam, insécurité et bien sûr immigration.
Avec une influence importante sur ceux qui aujourd'hui constituent les élites, ceux qui ont le vrai pouvoir politique, les populistes, ils influencent la décision publique déjà aujourd'hui, Henri de Lerschneider.
Je crois que dans plusieurs pays européens, ils ont une visibilité médiatique qui n'existait pas autrefois. Après 45, après ce qu'on appelle les 30 glorieuses, il y avait bien des partis d'extrême droite, mais totalement minoritaires. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que les idées ou les passions que les populistes sont en train de mettre sur le plateau politique, eh bien, on est en train de constater que certains partis politiques traditionnels, en fait, sont à l'écoute de cela. Peut-être, à nouveau, par stratégie politique électorale.
On a dit parfois qu'il posait les bonnes questions et apportait des mauvaises réponses.
Je crois que c'est Laurent Fabius qui avait dit ça.
À propos de l'extrême droite, évidemment.
Oui, parce qu'en fait, il y a une désespérance énorme dans notre société. On est dans une société anxiogène. Et il y a plusieurs peurs. La peur économique avec les délocalisations, la mondialisation, j'ai pas besoin d'assister. Il y a la peur politique face à une Union européenne qui est souvent perçue à son sommet comme une Europe technocratique, pardon, et qui ne s'occupe pas beaucoup, finalement, des simples mortels qui sont astreints à essayer de se sauver dans la vie quotidienne. Et puis, il y a une peur culturelle. Cette peur culturelle est liée avec une société de plus en plus multiculturelle et avec, bien sûr, l'islam, et faut-il le dire, une certaine tendance meurtrière qui est l'islamisme. Mais ce qui est totalement dégoûtant de la part de certains, c'est nationaux populistes, c'est qu'ils soufflent sur ce feu à des fins purement électorales. Donc, c'est un fameux appel à nos démocraties de retrouver le chemin des plus défavorisés dans notre société.
Alors, on va parler des populistes d'aujourd'hui, mais vous êtes historien, Henri de Lerschneider. Le populisme ne date pas d'aujourd'hui, il a sans doute traversé les siècles. C'est qui, pour vous, des exemples de grands populistes des siècles derniers?
On peut remonter à l'Antiquité?
Certainement.
Avec le côté démagogique, bien sûr. Ben, on pense, bien sûr, à Jules César. Jules César, qui était une famille plutôt patricienne, mais qui s'est appuyé sur les couches les plus populaires pour se hisser au pouvoir et qui a pris des mesures pour les plus pauvres, les plus démunis. Et vous savez que ça s'est mal terminé pour lui. Ça ne se termine pas toujours très mal. Parce que pour certains, par exemple, je peux parler d'un certain Hitler, vous savez que ça s'est... À quoi ça aboutit dans notre société? Parce qu'en fait, les dérives populistes, lorsqu'elles sont alliées au nationalisme, ça arrive tôt ou tard à des dictatures et ce sont les valeurs démocratiques qui disparaissent.
Voilà. Juste deux petites citations du best-seller de Monsieur Trump. Si vous faites escroquer, dit-il, escroquer en retour et au centuple. Je vous en cite une deuxième. Les gens ne doivent pas être respectés car beaucoup ne le méritent pas. Les lions tuent pour se nourrir mais les hommes, eux, tuent pour le sport, par exemple. Ces deux petites citations, je pourrais y ajouter ce que tout le monde évoque quand on parle de Donald Trump, le renvoi de 3 millions d'immigrés, on a parlé de 11 au départ, il a parlé de 11 millions au départ. Est-ce que c'est du populisme ou, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de la dérive populiste?
C'est du populisme à la xème puissance. On n'a jamais assisté...
C'est pas de la xénophobie?
Ah ben, il y a de la xénophobie, il y a du racisme, il y a de la misogynie, il y a... On peut continuer, l'homophobie, etc. C'est extrêmement regrettable... qu'une démocratie comme les États-Unis, c'est une démocratie, puisse arriver à de telles dérives. Et ça peut évidemment apporter de l'eau au moulin des populistes européens, faut-il le dire. Évidemment que c'est du populisme avec en plus une dose de cynisme éhonté et une vulgarité jamais atteinte. Voilà. Alors on a beau dire, oui mais il a déjà un peu amadoué son propos, ça va peut-être aller mieux, c'est un pragmatique.
Quand on voit son entourage,
c'est pas très bien. Comment?
Oui, quand on voit son entourage, on craint aussi.
Faut-il parler de Stéphane Bannon?
Par exemple, c'est quand même lui. Est-ce que c'est un populiste, lui? Parce que vous l'avez dit, Trump, ça n'est pas un idéologue.
Écoutez, le mot populisme, on a dit, est extrêmement élastique.
Oui.
Mais entre nous, c'est quand même très proche du nationalisme et de l'extrême droite. Stéphane Bannon est un type d'extrême droite.
Et dangereux.
Ah, évidemment, dangereux. Vous savez que il est totalement raciste, xénophobe, anti-avortement, etc. Et il est partisan quand même de la suprématie blanche. Et le voilà maintenant à la Maison Blanche.
Oui, on doit être le plus proche de Trump pendant la campagne et le plus proche de Trump
fait,
à l'administration.
C'est lui qui fait la campagne de Trump. Et le voilà devenu le chef de la stratégie et le principal conseiller.
Alors, je pourrais vous rétorquer que M. Buisson de l'extrême droite a été très proche de Sarkozy.
Oui. Vous voyez que ça se termine parfois mal. Il y a de bonnes nouvelles pour le populiste. Hein. Ça se termine parfois mal. Donc, je parle ici, bien sûr, pour Sarkozy. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Je trouve quand même que Patrick Buisson, que j'ai entendu récemment sur France Culture, n'a peut-être pas la virulence de ce... Je ne vole pas au secours de celui qui était à la tête, vous savez, de l'hebdomadaire Minute. Hein, bien sûr, Patrick Buisson. Mais Bannon, il y a là tout un ingrédient, au point que Fox News, qui est de tendance républicaine, l'a appelé, vous savez, le Goebbels. Voilà. Hein. Donc, il est aussi assez proche de toutes les théories du complot. Et le mensonge ne le gêne pas lorsqu'il s'agit d'atteindre un but électoral. Les wax, hein, les canulars, etc. Vous savez qu'on est arrivé à une époque de la
post-vérité,
une époque de la post-vérité, au point que la démocratie, on va sûrement en reparler, mais qu'est-ce que ça devient à cette démocratie?
Aujourd'hui, c'est du spectacle.
Ah, Guy Debord, la société du spectacle, ça avait déjà été écrit en 1967. Donc, on pourrait arriver de plus en plus, je pense à la Hongrie, faut-il évoquer la Turquie, à la démocrature, vous connaissez le mot valise. Hein. Voilà. Il y a une dérive extrêmement inquiétante. Alors parfois on me dit, oui mais tu exagères, etc. Moi, Je ne sais pas très bien. En fait, les prévisions sont toujours hasardeuses lorsqu'elles portent sur, sur l'avenir. Mais tout de même, il y a quand même des tendances lourdes qui sont en train de se placer, de se faire de plus en plus prégnantes.
Comment expliquer qu'un pays comme les États-Unis, un pays ouvert, qui a par exemple un sol migratoire qui est 5 à 10 fois supérieur à celui de la France, ait été aussi réceptif aux propos de Donald Trump et de là à les lire jusqu'à la surprise totale de tout le monde.
On sent bien qu'il y a une coupure aux États-Unis pour caricaturer la côte Est et les plus jeunes, plutôt bien sûr pour Hillary Clinton.
Ce modèle-là est
la côte Ouest.
Vacille quand même.
Oui, la vacille aussi, hein, bien sûr. Et plutôt à l'Ouest, bien sûr, plus démocrate. Mais je me demande parfois si la guerre de sécession est totalement terminée. Elle se termine en 1865, mais tout de même, n'y aurait-il pas dans le Sud profond, une angoisse à nouveau, voire une jalousie de ce qu'on appelle les petits blancs qui se sentent largués, etc. Une jalousie vis-à-vis des Noirs, vis-à-vis de ceux qui ont réussi, une crainte vis-à-vis des Hispaniques, des Afro-Américains, etc. Il y a quelque chose là-bas comme s'ils allaient devenir minoritaires aux États-Unis. Et je me demande aussi, dans l'optique de l'anti-élitisme qui est au cœur même du populisme, s'il n'y aurait pas une sorte de révolte contre les intellectuels. Parce que Barack Obama, c'est un intellectuel, Harvard, il parle bien, il présente bien, son épouse Michelle a beaucoup de charme, etc. Et je crois qu'on ne prend pas suffisamment en compte dans l'histoire, et donc dans la politique en général, le rôle du ressentiment. Or, chez ces ruraux qui se sentent largués, en
économiquement
plus de, économiquement, des ouvriers avec une part tellement importante des industries qui disparaissent, il y a ce besoin, quelque part, de se retrouver, voire, je mets ça entre guillemets, de se venger, parce qu'on ne peut jamais en vouloir aux gens qui se sentent malheureux. Mais ce n'est pas en prenant la distance, ce n'est pas en prenant la voie vers Trump que ça va nécessairement aller mieux. Pour eux, ça se termine toujours mal, justement, pour le peuple.
Est-ce qu'il faut craindre pour les États-Unis, alors ?
Ils utilisent toujours le mot peuple d'une façon pour le magnifier, comme s'il était monolithique, etc. Pour eux, c'est un marche-pied pour arriver au pouvoir.
Est-ce qu'il faut avoir peur ?
Comment ?
Est-ce qu'il faut avoir peur de Donald Trump et craindre pour les États-Unis, pour l'avenir ?
Oui, parce que, je répète, je ne sais pas l'avenir. Mais tout de même, avec des conseillers qu'on vient d'évoquer, avec un autre vice-président qui se dit « Je suis chrétien, conservateur, républicain et dans l'ordre ».
Petite note positive tout de même, on a quand même vu au cours des débats, notamment entre Sanders et Clinton, qu'il y avait du fond. On a vu toute une mouvance politique, notamment chez les millennials, les jeunes, qu'il y avait un engouement retrouvé pour la politique. Est-ce que là, il n'y a quand même pas j'allais dire, vous évoquiez tout à l'heure le sursaut politique, mais quelque chose un peu plus positif qui pourrait quand même donner espoir dans l'avenir, aux États-Unis notamment.
Moi, personnellement, je ne crois qu'au combat, au meilleur sens du terme. Donc, ce sont les idées souvent qui mènent le monde. Vous connaissez la parole de Gramsci. D'ailleurs, Patrick Buisson, c'était son combat, hein, c'est le combat était culturel. Mais, puisque je cite Gramsci, et comme je suis un peu apparemment ici un lanceur d'alerte, hein, Gramsci, qu'est-ce qu'il disait ? Le vieux monde se meurt, le nouveau peine à naître, et dans ce clair-obscur apparaissent des monstres.
L'Europe et le populisme, ça ramène évidemment avec le terme que vous utilisez, national-populisme, aux années 30. Est-ce que vous pensez qu'il y a des comparaisons valables ? Je vous poserai bien la question, est-ce que Trump égale Hitler ? Vous allez me dire, sans doute non, mais à certains aspects. Mais en Europe, est-ce qu'il y a des comparaisons valables ? Je dirais, de la part de ceux qu'on appelle les déboussolés, les ignorés, ceux que vous appeliez les petits blancs, que Hillary Clinton a appelé les déplorables, et que l'on insulte de temps à autre. Est-ce que vous avez ce sentiment que ça nous vient, ces monstres qui sortent, selon Gramsci, nous viennent en Europe ?